Maïssa, sœur orientale. J'ai réfuté totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une de vos compagnies au Kantanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'actifs et de maîtrise des dents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Dans une ordonnance signée le 28 novembre 2015, le chef de l'État a convoqué un dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congo. L'article 2 de cette ordonnance dispose que la tenue du dialogue est précédée de la mise en place, dans un délai ne dépassant pas 10 jours à dater de la signature de l'ordonnance, d'un comité préparatoire. Selon les porte-parole de la majorité, ces retards accusés dans la mise en place de ces comités préparatoires seraient d'ordre technique. Certains observateurs estiment que, vu les enjeux politiques de cette année, la mise en place de ces comités devrait être prioritaire, conformément à la linéa 1 de l'article 2 de l'ordonnance du chef de l'État. Qu'en pensez-vous? 081-63-890-63-15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Vous pouvez également nous joindre au 081-890-49-69. J.R. Longuembo est à la réalisation et la coordination de ces magazines mis en onde par Mimi Kindo, Pierrot et la Meiji. Vous le présente sous la supervision de Pélé Kité Lamondo. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comme je le disais tout à l'heure, l'article 2 de l'ordonnance du chef de l'État stipule ceci, la tenue du dialogue est précédée de la mise en place dans un délai ne dépassant pas 10 jours à dater de la signature de la présente ordonnance d'un comité préparatoire. Ce dernier, tout comme les dialogues proprement dits, sont composés des délégués de toutes les parties prenantes, à savoir la société civile, la majorité présidentielle et l'opposition politique, placée sous la co-modération d'un représentant de la majorité et d'un représentant de l'opposition politique. Plusieurs observateurs estiment, vu que les délais ayant largement dépassé, il est impérieux que le comité préparatoire soit mis en place selon l'article 2 de cette ordonnance du chef de l'État, en ayant bien sûr 10 jours, et vu aussi les caractères importants de la situation politique pour cette année 2016. Selon le porte-parole de la majorité dans le média ici à Kinshasa, a fait savoir que le retard accusé dans la mise en place de ces comités préparatoires serait dû à quelques contraintes techniques, alors que les 10 jours à dater de la signature de l'ordonnance présidentielle sont largement dépassés. Plusieurs observateurs estiment qu'il est vraiment urgent de pouvoir mettre en place ces comités si on voudrait bien sûr réussir la tenue de ces dialogues. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, Félicien à Kinshasa et Maurice à Kinshasa. Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Mais nous avons aussi plusieurs messages qui ont été déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, comme Euclide Moindo Nyamuira Foulou qui nous a écrit, dit ceci, l'ordonnance présidentielle doit être respectée. Les 10 jours étant dépassés, quant à moi, je ne vois pas la raison d'être encore de convocation du comité préparatoire. Sinon, le chef de l'État pourrait répondre une autre ordonnance pour respecter les délais. Sinon, tout va être bouleversé. Maître Sonville, bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Pour vous, sur le plan juridique, quel est le caractère de l'ordonnance du chef de l'État? Notre compatriote lui pense qu'il faudrait une autre ordonnance parce que la durée prévue pour la mise en place du comité préparatoire a largement dépassé.
Bonjour M. Bureau, bonjour à tous les millions d'auditeurs de Radio Capi. C'est un réel plaisir pour moi de retrouver encore ces auditeurs de la Radio Capi en 2016. Le problème c'est là, M. Bureau, par rapport sur le plan juridique, je trouve que l'ordonnance n'a plus ses effets, puisque le délai de 10 jours est largement dépassé. Et d'ailleurs, pour l'instant, nous avons une cour constitutionnelle qui peut se prononcer sur ça, puisque la cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et la force des lois. Si effectivement le délai et l'argent des parquets, parce que le délai était de 12 jours, et que la commission n'est pas encore instituée, j'estime que le chef de l'État, pour convoquer ce dialogue-là, il faudrait qu'il puisse prendre une autre ordonnance. À l'extérieur de ça, M. Zier et M. Pirot, moi je dirais ceci, par rapport à la déclaration du porte-parole de la majorité présidentielle, j'estime que ce n'est pas le problème technique qui a mis en déroute la constitution de ce comité préparatoire. Moi, je dis qu'il y a beaucoup d'impératifs, puisqu'il y a ceux-là qui contestent la manière de convoquer ce dialogue par le chef de l'État. Il y a des impératifs, entre autres, l'IDF était sorti de son lieu. Il a dit que le chef de l'État ne pouvait pas convoquer ce dialogue, puisqu'il y a aussi des problèmes dans ce dialogue-là. Pour l'IDF, il a fallu que la communauté internationale puisse convoquer ce dialogue et avoir un médiateur international. À ce sens, c'est l'IDF. Pour les autres partis politiques de l'opposition, entre autres, le Front commun citoyen pour l'alternance 2016, les G7, les autres associations à ce côté de l'opposition, elles ont dit, nous ne pouvons pas participer à ce dialogue-là, ce dialogue-là n'est pas opportun, c'est inopportun pour eux, et sans les élections qui sont prioritaires, puisque si nous sommes arrivés à ce niveau ici, c'est le gouvernement qui ne pouvait pas, qui ne voulait pas mettre devant la discussion de la CENI pour que la CENI puisse organiser les élections. C'est à cette difficulté que le chef de l'État est buté, puisque cette commission devait comprendre deux commodérateurs, entre autres, le modérateur de la majorité présidentielle et l'autre modérateur de l'opposition. Mais maintenant, face à cet impératif-là, le président se retrouve devant et s'est accompli, il ne sait absolument rien faire pour continuer et pour même instituer cette commission-là. C'est ça la vraie raison. Mais néanmoins, si nous revenons encore toujours à cette ordonnance-là, l'ordonnance de convocation de ce dialogue-là, j'estime qu'il y a aussi beaucoup d'irrégularités dans cette convocation de cette ordonnance-là et de ce dialogue-là. Parce que pour le moment, le dialogue n'est pas prioritaire. Et puisque la priorité, c'est le calendrier électoral. Le calendrier électoral qui doit être publié par la CENI. Et j'estime que même hier, le président de la CENI a eu à converser avec d'autres représentants, d'autres professeurs religieux, pour se mettre d'accord en fait qu'il y ait un calendrier constitutionnel. Oui. C'est ça la priorité. Uh-huh. Et par rapport aussi toujours à ce dialogue-là, il y a ceux-là qui ont donné un ultimatum à la CENI que tout à l'étranger, j'en veux que le calendrier puisse être élaboré. Et aussi, la mise à jour. Et peut-être que c'est plus tard le 16 février. Mais voilà que rien n'est fait. Alors, c'est la difficulté à laquelle est buté le chef de l'État. Comme le chef de l'État a dit que c'est un dialogue qui est inclusif, et que les autres là ne veulent pas faire partie de ce dialogue-là. Et ce dialogue qui se tenait, ça n'aura aucun impact dans l'administration du pays. Parce que nous sommes en train de rechercher des solutions. Mais les solutions ne se trouvent pas à ce niveau-là. Il y a controverse en fait concernant ce dialogue politique. Mmh.
Merci Maître Sonville. Vous estimez que le délai ayant largement dépassé le délai de 10 jours pour convoquer ou bien pour former le comité préparatoire du dialogue, il serait mieux pour le chef de l'État de pouvoir prendre une nouvelle ordonnance fixant un nouveau délai. Mais pour vous, ce n'est pas un problème d'ordre technique, mais c'est plutôt les appréhensions des uns des autres autour du dialogue. L'UDPS qui estime que le format, ce n'est pas celui prévu par l'accord cadre avec les facilitateurs. Les autres, carrément, qui disent que le dialogue n'est pas opportun, c'est ce qui amène les blocages. Voilà. Vu que les délais sont déjà dépassés par rapport à la formation du comité préparatoire, vous estimez qu'il serait mieux au chef de l'État de prendre une nouvelle ordonnance. Merci beaucoup, Maître Sonville. Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Allô?
Oui, Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Oui. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà. Oui, vous avez suivi tout à l'heure un compatriote qui disait que non, le chef de l'État, dans son ordonnance, a bien précisé qu'il faudrait 10 jours après la mise en place, la signature de l'ordonnance, on devait déjà avoir un comité préparatoire pour les dialogues. Et alors, comme le délai est largement dépassé pour certains compatriotes, il serait mieux que le chef de l'État prenne une nouvelle ordonnance Mais maître Sonville dit tout à l'heure, c'est pas un problème d'autres techniques, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'appréhension qui a provoqué le retard. Dès lors que l'année a des enjeux majeurs, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour qu'on ait ces comités préparatoires féliciens?
Merci beaucoup pour la parole, Pierrot. Vous savez, la cause du retard dans le démarrage de ce dialogue est due à l'inconscience et l'inconstance de la classe politique congolaise. Vous savez que l'homme politique congolais n'a pas la culture de l'intérêt supérieur de la nation. Chacun se bat pour ses propres intérêts. Et on pourra trouver une formule pour relancer le dialogue. Mais on est en train de perdre du temps alors que la situation est grave. Et certains ne veulent pas du dialogue, mais ne proposent aussi rien de réaliste. Et même moi, je pense que dans la situation où se trouve le pays aujourd'hui, le dialogue s'impose par lui-même et on n'a pas d'autre choix. Parce que, vous savez, M. Pio, les gens veulent aller aux élections. Mais ils ne précisent pas comment doivent être ces élections. Si nous devons aller aux élections comme en 2006 et en 2011, en tout cas, ça ne sont pas des élections qui sont dans l'intérêt du peuple congolais. Et alors, si ceux qui sont en train de se battre pour refuser le dialogue, aller aux élections, sont les mêmes qui sont aujourd'hui au pouvoir, demain à l'opposition, de l'opposition au pouvoir, et les mêmes qui tournent, et rien ne change, alors ça vaut pas la peine. Parce que l'opposition ne peut pas devenir une blanchisserie où les gens qui ont mal dirigé ce pays, ont mal travaillé, ils vont à l'opposition pour se blanchir. C'est pourquoi nous voulons qu'on puisse aller au dialogue. Là, on pourra trouver une formule en créant une commission vérité et réconciliation pour qu'on sache qui a fait quoi dans ce pays et peut même arriver à demander à ce que ceux qui ont déjà trempé dans quoi que ce soit dans ce pays ne puissent plus se présenter à ces fameuses élections qu'on veut à tout prix aller aux élections. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on voit rien ne va changer, ce sont la même classe politique, les mêmes hommes qui sont arrivés hier là-bas, qui reviennent demain, tout ça. Quand on ne regarde pas le président de la République, le président de la République n'est qu'un individu. Mais c'est nous tous qui sommes responsables, soit de la réussite, soit de l'échec dans ce pays. Alors allons, parlons et regardons-nous dans les yeux et voyons qui a fait quoi et qu'on se repente et qu'on demande pardon et qu'on ne recommence plus avec les mêmes bêtises. Pourquoi on a perdu le dialogue? Peut-être c'est à cause de ce que nous proposons. Pour faire la commission de vérité et réconciliation, c'est ça qui fait peur à ces hommes politiques. Mais ça aura lieu, le peuple est derrière ça, nous devons arriver à cette solution-là.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que le blocage aujourd'hui, plus d'un mois après, qu'on n'ait pas toujours un comité préparatoire, que les choses ne soient pas mises en marche pour avoir ces dialogues, cela est dû à l'inconstance des hommes politiques. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs autour des ces dialogues. Mais vous estimez que c'est important que les gens considèrent plus l'intérêt supérieur et qu'on arrive vraiment à avoir ces comités préparatoires et qu'on mette en marche, bien sûr, la tenue de ces dialogues. Merci. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Je vous salue également à Pérou. Je salue aussi les auditeurs qui nous suivent actuellement.
Et certains compatriotes estiment que l'ordonnance fixant à 10 jours la formation du comité préparatoire étant largement dépassée, et c'est là aussi rend impossible vraiment les cheminements vers ces dialogues. Alors qu'est-ce qui doit être fait pour dénouer à ces niveaux-là?
Je dois commencer d'abord par réagir à la raison évoquée par les porte-parole de la MP, évoquant des contraintes plutôt techniques. Je doute fort en fait à cette raison. Je crois le vrai problème est ailleurs. Il faut vraiment le dire sans jambage, le retard est relatif à l'entendement et même à l'approche. Par rapport même au concept de dialogue, auprès en fait de partenaires, des grands partenaires au dialogue, donc les deux grandes forces politiques qui sont sur le plan de principe d'accord à la tenue du dialogue, notamment l'UDPS et le PPRD, Donc, s'il faut parler en termes des individualités, Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi et les différents partenaires qui sont derrière ces grandes personnalités politiques. Pour Joseph Kabila, conformément en fait à son ordonnance, lui estimerait qu'il serait le maître, le seul maître à bord qui fixe les modalités pratiques quant à la tenue de ce dialogue. Or, Étienne Tshisekedi ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, les dialogues doivent se tenir conformément aux instruments internationaux relatifs en fait à la tenue du dialogue, notamment l'accord cadre d'Addis Abeba et les résolutions subséquentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, donc à ce niveau-là, il y a un problème d'abord au niveau, comme je disais, de l'entendement et au niveau de l'approche. Alors, lorsque Joseph Kabila publie cette ordonnance et la réaction de l'UDPS à travers un document signé par le Sénat depuis Bruxelles n'était pas en fait tardé. L'UDPS a recadré. Il a réagi pour dire qu'il n'était pas concerné par les dialogues conformément en fait à l'esprit de Joseph Kabila. Et l'UDPS a dit qu'il était toujours attaché sur le plan de principe au dialogue, mais conformément à l'accord cadre. L'UDPS avait suggéré qu'il y ait d'abord nomination d'un facilitateur. Et c'est le facilitateur qui va initier les contacts avec les différentes parties prenantes au dialogue et de manière concertée, ces derniers vont fixer la date, le lieu, et les formats et même l'ordre du jour qui va sanctionner ces dialogues. Alors, c'est ça, ce plan-là, plutôt que Joseph Kabila aussi a essayé de revoir à la baisse quand même ses ambitions et de s'accorder sur ce plan-là, sur ce principe plutôt, avec l'UDPS. Donc actuellement, à mon entendement, c'est la nomination de ce facilitateur qui rétablirait en fait les choses. Alors, quand au dialogue, comme disait notre ami de tout à l'heure, Félicien, je ne vois pas pour quelles raisons quelqu'un s'opposerait actuellement au dialogue. Parce que même ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont hostiles au dialogue, si on leur pose la question de savoir est-ce qu'ils sont, ils ont la confiance de la CENI, ils vous diront que nous n'avons pas confiance de la CENI. Vous posez la question, est-ce que vous avez confiance à la Cour constitutionnelle? Ils vous diront, nous n'avons pas confiance à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous avez confiance au gouvernement de la République qui doit financer la tenue de ces élections? Ils vous diront, nous n'avons pas non plus confiance à ces institutions. Alors, vous n'avez pas confiance à ces institutions, mais vous attendez que ces institutions organisent les élections et au final, vous allez vous opposer aux résultats qui seront proclamés et qui seront validés par cette Cour constitutionnelle. Par exemple, vous allez me dire que je suis clair sur toute la ligne, Félicien, qui disait que vous révaliez plutôt, vous êtes hostile au dialogue, mais vous ne proposez sur le plan pratique absolument rien.
Alors, Maurice,
aller à la violence,
voilà.
Vous voulez amener les gens dans une violence où les gens ne peuvent pas comprendre les véritables mobiles.
Mais Maurice, je crois pas vraiment qu'il y ait de plus en plus, chaque fois quand on évoque ces questions des élections, des élections, du dialogue, les gens ont tendance à revenir sur le terme violence, ou voilà, mais la violence, on veut pas la violence, je crois qu'il y a personne aujourd'hui vraiment qui souhaite que ce soit les revendications pour les élections puissent aboutir à des violences, sont des expériences, je crois, qu'on ne peut pas encourager. Mais si je vois bien cette ordonnance que j'ai sur la table Maurice, et je crois bien le chef de l'État a fait référence à l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac Signa à Addis Abeba, vous l'avez évoqué. Le chef de l'État fait aussi allusion à la résolution numéro 2098/2013 adoptée le 28 mars 2013 par les conseils de sécurité des Nations Unies. Cela veut dire que l'idée de la convocation du dialogue est partie aussi de ces deux textes juridiques que vous avez évoqués. Mais pour vous, le fait qu'il y a un retard dans la mise en place du comité préparatoire, mais aussi qui entraîne aussi le retard dans la convocation du dialogue est dû au fait qu'aujourd'hui, ces deux parties ou bien ces deux personnalités ne se sont pas mises d'accord sur les approches quant au dialogue.
Y compris aussi la conscience des uns et des autres, aussi longtemps qu'il n'y a pas la nomination du Fassiotin. Vous vous estimez que c'est assez nouveau, que se trouverait le problème aujourd'hui. Alors, merci Maurice de nous avoir appelé de Kinshasa. Didier Serge Moussanga nous a écrit, il dit ceci, à un certain moment, il faut savoir dire la vérité. Si pour les paroles, le porte-parole de la majorité présidentielle, les retards et d'ordre technique, les chefs de l'État, en convoquant ces dialogues, n'avait-il pas déjà tous les préalables pour être sûr que la date, le délai de 10 jours devait être respecté dans la mise en place de comités préparatoires. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on nomme un ministre par ordonnance présidentielle et qu'il se dise indisponible. La conclusion, c'est que l'on n'aurait pas consulté avant de pouvoir les nommer. Fabrice Pouloulou Ngongi, pour quand on a signé l'ordonnance convoquant les dialogues, est-ce que les 10 jours pour la mise en place du comité préparatoire sont déjà largement dépassés? Il faudrait encore que les chefs de l'État convoquent tous ceux qui sont concernés pour savoir comment adopter une autre attitude qui puisse permettre à ceux que les uns et les autres respectent les échéances. Saint-Florian Bidoya à Kananga, parler du retard à ce stade nous amène à dire beaucoup sur les objectifs poursuivis en organisant ces dialogues. Nous ne comprenons pas comment on peut avoir un retard alors que tout le monde considère que la question des dialogues est importante pour arriver à organiser les élections. Kumba Ramazani Rams, ma préoccupation est celle de savoir les probabilités politiques éventuelles qui adviendraient sur l'ensemble du territoire national au cas où le retard de ces fameux dialogues persistait au point de demander au peuple de bien vouloir comprendre que sans dialogue, il n'y aura pas d'élection. Quelle sera la situation alors qu'on n'est pas en mesure de pouvoir respecter les délais qu'on s'est fixés pour qu'on puisse avoir les comités préparatoires de ces dialogues? 081 890 7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Vous pouvez également nous joindre au 081 890 49 69, et nous parlons du retard enregistré dans la mise en place du comité préparatoire du dialogue selon l'esprit de l'ordonnance présidentielle qui, je l'ai dit encore dans l'article 2 de cette ordonnance, dit ceci, qu'on devait avoir les comités préparatoires en déant 10 jours après la signature de l'ordonnance présidentielle.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Nous avons dans ce studio le professeur Jean-Pierre Mwebo Akalala, analyste politique et professeur d'université. Professeur, bonjour, merci d'être avec nous et meilleurs voeux.
Merci Pierrot et meilleurs voeux aussi.
Voilà, le débat est là. Le 28 novembre 2015, le chef de l'État prend une ordonnance présidentielle annonçant la convocation du dialogue et après le 28, ça veut dire 10 jours après, on devait en principe avoir un comité préparatoire qui devait être mis en place pour préparer effectivement la tenue du dialogue. Mais les gens se rendent compte qu'on est déjà au-delà de 10 jours selon l'esprit de l'ordonnance du chef de l'État, et dans ces conditions, ça risque aussi d'être difficile, même pour l'acheminement et la suite de ces dialogues, d'assurer des médias ici à Kinshasa. Le porte-parole de la majorité a évoqué des raisons techniques, d'ordre technique, qui ont fait qu'on connaisse ce retard. Certains pensent qu'automatiquement il faudrait que le chef de l'État revienne pour une nouvelle ordonnance fixant un nouveau délai, parce qu'on ne saura pas revenir sur ce délai des 10 jours alors qu'on est déjà au-delà des 10 jours. Mais politiquement, les problèmes demeurent. C'est ce que tout cela peut entraîner sur la convocation du dialogue. Vous avez suivi les uns et les autres, votre réaction?
Bon, moi je pense que on a le problème des délais, mais c'est d'abord une question de mobiliser tous les acteurs importants à ces dialogues-là. Je crois que le chef de l'État a fixé ces délais en s'appuyant sur le fait que après le tour des différentes classe dans notre société, il y avait quand même un feedback qui indiquait que les dialogues étaient souhaités par la majorité. Et je pense que c'est sur cette base-là qu'il doit avoir prévu que 10 jours après, n'est-ce pas, les comités soient mis en place. Mais vous savez aussi que dans notre pays, toutes ces questions-là de nommer des gens, ce sont des questions souvent qui divisent les gens. Surtout que du point de vue de l'approche, il y a aussi un peu de discussions, un peu de divergences, il y a encore des gens qui pensent autrement. Alors vous comprenez que dans ces cas-là, le retard est tout à fait compréhensible. Mais l'essentiel, c'est qu'on aille de l'avant. Parce qu'on ne peut pas considérer que 10 jours après, comme c'est, les 10 jours sont passés, les dialogues deviennent impossibles pour cela. Je crois qu'il faut plutôt essayer d'aller de l'avant, faire que les acteurs principaux puissent, n'est-ce pas, être d'accord d'être là, et aussi les facilitateurs. Parce que si on avait déjà un facilitateur nommé, connu, je crois que ça allait aussi faciliter un peu ces choses-là. Je crois que les facilitateurs allaient s'impliquer et allaient aussi aider que même cette question, n'est-ce pas, soit décantée rapidement. Parce que le rôle du facilitateur, c'est aussi tout ça. Le facilitateur peut aider aussi à ce que les comités-là soient rapidement mis en place et que, n'est-ce pas, en ayant des contacts avec tout le monde, n'est-ce pas, ils puissent aider aussi les chefs de l'État à poser les jalons qui sont attendus par la suite. Maintenant, est-ce que ce n'est pas au chef de l'État de le faire? Moi, je crois quand même que c'est à lui de poser les autres des axes, n'est-ce pas? C'est important. Le dialogue est là, même s'il y a les actes là, n'est-ce pas, qui sont posés au niveau de la communauté internationale. Mais au niveau national, qui doit financer ça? Je crois que c'est le gouvernement congolais dans ce cas-ci. Et si le gouvernement congolais doit financer ces choses-là, c'est aussi les institutions, n'est-ce pas, de la République ou les animateurs de ces institutions qui doivent donner un cadre légal de ces dialogues. Hein, parce que sinon, les dialogues ne peuvent pas se tenir. S'il n'y a pas, n'est-ce pas, la légitimation de ces cadres-là, le dialogue, par les autorités compétentes. Ça sera difficile, n'est-ce pas, de donner à ces caractères, à ces dialogues, un caractère contraignant. Et donc, quelque part, je pense que il y a un peu amalgame dans la manière de discuter. Hein. Bon, nous sommes dans un pays, il y a les personnes qui sont habilitées à poser des actes, et ces personnes-là, dans la mesure où c'est un dialogue que l'on veut entre Congolais, et que ce dialogue devra se tenir avec les Congolais, c'est au gouvernement congolais de le prendre en charge. Et si le gouvernement congolais doit le prendre en charge, il ne faut pas que ce dialogue, n'est-ce pas, soit vain. Ça veut dire que le dialogue ne travaille pas pour rien. Et si le dialogue ne doit pas travailler pour rien, quelque part, il faut que le dialogue soit reçoive un caractère officiel et que le dialogue produise les effets qui peuvent, quelque part, n'est-ce pas, avoir une valeur dans le pays.
Mais parce que vous avez évoqué la valeur, c'est aussi, Maître Cossonville disait, il revient à la Cour constitutionnelle de pouvoir dire si l'ordonnance est tombée caduque. Ce sont des questions de considération juridique, de savoir 10 jours après une ordonnance présidentielle, qu'est-ce qui doit advenir après. Mais le problème aussi, c'est le fait que quand les délais semblent plus s'éloigner, c'est là aussi s'éloigne dans la conception, ça risque de donner un caractère un peu, on peut dire, précaire, n'est-ce pas, d'un acte convoquant. On a vu ça avec la mise en place des nouvelles provinces, le fait que les délais ont été largement dépassés selon le décret du Premier ministre, voire même l'ordonnance présidentielle. Et d'un coup, ça a amené les gens dans un débat où tout ce qui a été posé comme acte dans la mise en place des nouvelles provinces a été facilement balayé par les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su effectivement capitaliser les délais qui ont été fixés par les différents actes pris par, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le Premier ministre.
Je crois que ce sont des questions qui peuvent être réglées. Donc, du moment que le comité là sera là, à mon avis, le chef de l'État peut quand même faire quelque chose qui puisse régler ça. L'essentiel, c'est, à mon avis, que les différents acteurs, les différentes personnes, personnalités attendues à ces dialogues, n'est-ce pas, s'apprêtent à le faire. Et qu'il n'y ait pas toujours un pas en avant, deux pas en arrière, ainsi de suite. Ça, ça me paraît quand même quelque chose qui n'aide pas les pays à aller de l'avant. Parce que chaque fois qu'on doit discuter, chaque fois qu'on doit faire quelque chose, alors on a toujours tendance à tirer en longueur. Donc on a tendance à mettre beaucoup de temps pour des choses qui peuvent quand même aller vite. Et donc ça, c'est quelque chose à regretter. Hein. Il faut qu'il y ait les effets. Alors, les effets attendus de ces dialogues sont possibles si ça s'est fait aussi vite.
Aussi vite.
Mais d'ailleurs, si ça commence à tirer à longueur quelque part.
Quand on regarde l'article 3 de l'ordonnance, on dit ceci, le comité préparatoire a notamment pour tâche d'apprêter les documents de travail et d'élaborer les projets de l'ordre du jour et du règlement intérieur à soumettre à l'approbation de la plénière du dialogue, déterminer toutes les modalités d'organisation et de fonctionnement du dialogue, de fixer le nombre de participants qui doivent provenir de la société civile, de la majorité présidentielle et de l'opposition politique, ainsi que la durée et les sites devant abriter le forum. Voilà l'importance même de la mise en place de ces comités. Et à ce niveau, on se rend compte comment, vous l'avez dit, en tirant en longueur, ce que ça peut avoir comme conséquence. Parce que tout ça, ça court aussi derrière les élections, les délais constitutionnels, professeur.
Et justement, étant donné que ces comités ont des missions qui lui sont déjà précisées dans cette ordonnance, il est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui dérangent finalement, hein, donc qui s'embrouillent ou qui embrouillent les cartes, si bien que chaque fois peut-être qu'on avance des noms, on les retrouve toujours des failles quelque part, on trouve que ces gens-là ne sauront pas faire cela, ou que les enjeux sont tellement d'intérêt de beaucoup de gens que parfois ça bloque un peu, mais je crois que l'essentiel, c'est de trouver des gens qui sont acceptés de côtés, du côté de la majorité, du côté de l'opposition et même aussi du côté de la société civile, pour justement arriver à évoluer. Mais si ces comités tardent justement à se mettre en place, on risque, n'est-ce pas, de banaliser même le dialogue. Donc c'est important que ces comités soient finalement mis en place et que, quelque part, on comprenne qu'on ne va pas toujours avoir de magiciens. Hein, donc, qu'on ne cherche pas toujours à trouver des magiciens quelque part. Qu'on prenne des Congolais, nous sommes Congolais, qu'on nomme des Congolais qui ont des capacités de pouvoir organiser cette question sur le plan technique, sur le plan logistique, etc., et que ça soit fait. Je crois qu'on a intérêt à aller de l'avant.
Confiance est à Kinshasa. Bonjour, Confiance, et bienvenue.
Bonjour, Mbote Djambo, à tous les occupants de la radio de la paix, et meilleurs voeux à tous les auditeurs aussi.
Confiance, vous venez de suivre le professeur qui disait tout à l'heure le fait qu'on tarde aussi dans la mise en place de ces comités et que les délais fixés par l'ordonnance puissent s'éloigner de plus en plus. Cela risque aussi même de banaliser en fait la tenue du dialogue. On l'a vu, hein, comment les gens ont pu plusieurs fois engager des débats, contester même la mise en place de nouvelles provinces à cause de non-respect des délais qui ont été fixés, des choses qui ont été tirées en longueur. Quel est votre point de vue et comment on peut arriver à mettre de l'ordre et conscience dans cette question?
Je vous remercie sincèrement de m'avoir donné le mot-clé qui devait me permettre de m'introduire, d'analyser. Je pense que c'est ça le mot-clé qui me permet d'analyser la situation d'aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre une situation d'enlisement. Il faut que les gens disent que c'est la situation pourrie, c'est que ça ne marche pas. Mais moi, je voudrais faire remarquer une chose. Nous sommes Africains. Et chez nous, Africains, le chef est sacré. Ok? Et même la parole du chef, elle est aussi sacrée. Le chef a déjà dit 10 jours. Nous souffrons dans ce pays d'une maladie qui est le manque d'évaluation. On n'a pas le temps d'évaluer. On peut dire des choses, mais on n'évalue pas. Je me pose la question de savoir autour du chef, qui sont ces gens qui sont autour du chef? Et ma question revient à dire aussi, si cette ordonnance a été promulguée, et 10 jours après, qu'est-ce qui a été fait pour l'évaluation? Donc je reviens à mon idée première de l'évaluation. Si nous avons la situation que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas aussi su évaluer. une année après, deux années après, trois années après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Maintenant, on doit parler autour des élections, on doit parler autour du, on doit faire un dialogue pour voir comment organiser les élections. Pardon? Mais maintenant que nous avons, nous sommes à moins d'une année de ces élections-là, on n'est toujours pas capable d'évaluer. Moi, je me pose la question de savoir, 10 jours après cette ordonnance-là, qui est lue et entendue par tout le monde, qu'est-ce que les conseillers qui sont autour du chef ont fait? Qui a évalué 10 jours après? Qui a dit quoi pour dire que non, nous venons de dépasser 10 jours et que rien n'a été fait? Et moi, je pense que si réellement ce dialogue était en faveur du peuple congolais, il aurait déjà eu lieu. La même chose que nous avons eu avec la concertation. Les gens ont dit pas de concertation, les autres ont dit concertation, mais les résultats de la concertation, nous le connaissons. Mais aujourd'hui, si les gens sont en train d'hésiter, peut-être qu'ils se rendent compte effectivement que voilà une parole du chef qui n'a pas été respectée 10 jours après, et personne ne dit rien. Ce qui prouve à suffisance que même si on allait dans ce dialogue-là, les résultats de ce dialogue-là ne seront pas exécutoires, ne seront pas, n'auront pas un caractère contraignant. C'est ça la crainte des gens. Parce que moi, ça me dépasse. Ça me dépasse.
Merci, merci beaucoup, Conscience. Vous estimez que la parole du chef est sacrée. On devait d'ailleurs faire l'évaluation autant de jours après, savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à ces délais fixés dans la formation du comité préparatoire. Et tout ça, ça vous dépasse. Ça risque même de pouvoir créer un enlisement et qu'enfin, les résultats du dialogue ne puissent pas être contraignants et engager la majorité de personnes. Merci Alain, vous êtes à Kinshasa. Merci de nous avoir contacté pour votre intervention. Bonjour Alain, et bienvenue.
Bonjour, merci Radio Kapi, merci à tout le monde.
Merci, on vous écoute Alain.
Oui, contrairement à ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur, j'estime qu'il y a une évaluation qui a été faite en amont, et qui a permis à ce que nous puissions avoir cette ordonnance du chef de l'État. Malheureusement, il y a dans cette situation, il y a des facteurs qui sont endogènes et exogènes. En ce qui concerne les facteurs endogènes, c'est d'abord l'attitude belliqueuse que présente une certaine frange de l'opposition, et deuxièmement, l'intervention de la communauté internationale. Je vous souviendrai que le chef de l'État avait consulté pratiquement toute la classe politique pour initier ce dialogue. Et la classe politique, une bonne partie était favorable, tant bien même qu'il y a une frange qui était écartée de la démarche rationnelle et importante pour notre nation, mais quand même des gens qui ont pu accepter. Et par la suite, nous avons constaté, malheureusement, que ces gens ont pris notre position. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, comme le porte-parole de la majorité l'a dit, nous sommes butés à ces problèmes qui sont techniques, d'ordre technique, d'autant plus qu'on était appelé à mettre en place le comité préparatoire qui est, de mon point de vue, un secrétariat technique pour ensuite donner les calendriers des activités ou des assises proprement dites. Sur le plan international, ce que j'ai appelé le facteur exogène, c'est l'attitude aussi du secrétaire général des Nations Unies qui avait reçu des recommandations du chef de l'État qui avait sollicité à ce que parmi les personnalités proposées par lui, il puisse nous proposer, nous donner un nom parmi ces gens pour que nous puissions avoir la présence d'un membre de la communauté internationale dans ces actes. Il vous souviendra que nous, de la majorité, nous autres, nous avons fustigé l'attitude de l'opposition qui voulait à tout prix qu'il y ait la présence de la communauté internationale. Nous aujourd'hui, nous avons été larges, nous avons accepté tout ce qui nous a été demandé. J'estime de mon point de vue que si aujourd'hui nous sommes bloqués dans une certaine mesure, c'est tout simplement parce qu'il y a une certaine vague, une certaine instabilité, l'inconstance de l'opposition qui ne permet pas à ce que le pays puisse avancer. Mais si on doit mettre l'accent sur l'importance même du dialogue, certaines opinions pensent que la finalité, c'est les élections. Et pourtant, si on lit très bien notre constitution, et plus précisément dans ses exposants, l'exposé des motifs, on se rendra compte que les élections ont été instaurées tout simplement pour mettre fin à ce que nous avons appelé la crise de légitimité. En 2006, nous avons organisé les élections. Cela n'a pas résolu le problème. En 2011 également. Mais aujourd'hui, comme l'alternance est constitutionnelle, comme nous tous nous voulons à ce qu'il y ait cette alternance, eh bien, on doit mettre l'accent sur la qualité des élections pour permettre à ce que nous atteignions l'objectif voulu par les constitutions. Après, on doit se le dire. La constitution n'a pas fait les élections comme une finalité, mais plutôt pour, comme moyen. C'est-à-dire, un mode d'évolution.
Mais Alain, si je peux bien vous relancer à ce niveau-là, je crois même que, comme vous avez dit, il y a une constance au niveau de l'opposition. C'est, et là, vous voulez dire, en fait, comme si, pour vous, le dialogue était une obligation pour tout le monde, pour pouvoir y participer. Nous avions reçu, il y a quelques semaines, dans ce studio, un délégué de la majorité présidentielle qui nous a dit que le chef de l'État a écrit, il y a une lettre déposée par le ministère des Affaires étrangères auprès du secrétaire général des Nations Unies, mais je ne peux pas vous confirmer dans cette émission qu'il y avait des noms qui ont été proposés. Il a bien dit, là, mais sur le cœur, que c'est juste une lettre, que nous, à la majorité, nous n'avons pas les contenus, mais vous, vous dites qu'effectivement, le chef de l'État avait proposé des noms au secrétaire général des Nations Unies. Quand on regarde l'ordonnance qui est un acte, je peux dire bien juridique du chef de l'État, on ne fait pas mention d'une facilitation internationale, c'est une commodération congolaise, mais dans les discours, le chef de l'État avait fait allusion à une facilitation internationale au cas où il y a une nécessité. Disons quand même à ces niveaux, il n'y a pas la même compréhension à l'aide dans les démarches pour effectivement mettre tout le monde d'accord autour de ces questions techniques, Alain.
Bon, moi, j'estime de mon point de vue, le problème aujourd'hui se situe au niveau de la réactivité de l'opposition. Si on avait donné un caractère national à ces actifs, eh bien, j'estime qu'à ce moment-ci, à ce moment précis, on devait avoir ce dialogue. Mais malheureusement, l'intention de cette opposition ne nous permet pas d'évoluer. Si on doit, en tout cas, tenir compte de l'importance du dialogue, le dialogue va nous permettre d'avoir des élections apaisées. Et deuxièmement, pour avoir des élections apaisées, on doit avoir un calendrier consensuel qui nous est exigé par la même opposition. Comment peut-on envisager avoir un calendrier consensuel sans qu'il y ait échange entre nous de la majorité et ceux de l'opposition? Donc aujourd'hui, nous sommes bloqués, tout simplement parce que l'opposition n'arrive pas à cerner l'importance même de ses acquis. Donc c'est ce qui fait, de mon point de vue, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous rencontrons ce que
alors,
la majorité appelle... le point technique.
Oui, Alain, pour vous libérer, parce qu'il y a, je vois encore Olivier qui nous appelle et Madame Joséphine, beaucoup d'appels sur notre standard vu le caractère important de cet échange. Mais vous avez tout à l'heure, parce que vous avez parlé au nom de la majorité, vous avez évoqué 2006 et 2011. Effectivement, c'est ça, c'est au niveau de cette compréhension, parce qu'il y en a qui disent, mais écoutez, en 2006, on avait décrié les élections, on estimait qu'elles ne répondaient pas aux normes qu'il fallait discuter, trouver des solutions en 2011, et qu'en ce moment, la majorité avait dit non, tout était mieux, les fichiers électoraux étaient clairs, on pouvait bien y aller, mais pourquoi alors laisser deux fois les élections se passer pendant lesquelles la majorité a pu gagner, et la troisième fois estimer qu'il faut maintenant qu'on discute pour régler les questions? C'est au niveau de ces compréhensions effectivement qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, qu'on n'ait pas la même façon de comprendre l'importance du dialogue entre vous, la majorité, ainsi que l'opposition.
Non, mais la nécessité d'avoir le dialogue résulte de l'évaluation faite sur le processus électoral. Il vous souviendra qu'en 2006, une évaluation a été faite ex post qui nous a permis de discerner qu'il y avait un problème de dysfonctionnement ou d'inadaptation au niveau de l'organe CENI. Cela a permis à ce que le pasteur Ngoï Mulunda quitte le pouvoir pour que l'abbé Malumalu quitte le pouvoir pour que nous... le nouveau comité du pasteur Ngoï Mulunda. Et la même chose a été faite aussi en 2011. Ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des divergences qui planent entre nous de la majorité et ceux de l'opposition. Alors, pour aplanir, on doit se mettre autour d'une table que nous puissions échanger
et
trouver des options politiques.
Merci beaucoup, Olivier, vous estimez.
Dès lors que cette opposition préfère aller négocier ou dialoguer avec les étrangers au Sénégal, avec les étudiants, avec le palais citoyen, en tout cas, moi, personnellement, je me sens mal à l'aise.
Merci. Vous estimez que vous êtes mal à l'aise parce que une branche de l'opposition ne dialogue pas avec vous, qu'elle dialogue avec les étudiants et d'autres personnes. Merci, Alain. Olivier, vous êtes à Kikwit dans la province du Kulo. Bonjour, Olivier, et bienvenue.
Oui, bonjour JR et bonjour tous les auditeurs.
Olivier, c'est ça même la question, comme on le disait tout à l'heure, le professeur Jean-Pierre Mbouboual venait de le dire. Nous avons cette tendance à pouvoir tirer en longueur des choses qui peuvent être faites rapidement. Mais dans tout ça, il y a la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on arrivera dans ces conditions à pouvoir respecter même les délais qui sont fixés dans les textes juridiques, comme par exemple la concession dans la fin, le renouvellement de mandat, et quant alors déjà la mise en place des comités préparatoires, la convocation effective même du dialogue qui des fois est contesté par les uns et les autres pose problème. Alors comment on peut se ressaisir à ces niveaux d'échange, Olivier?
Ok, voilà, justement, ça fait tirer des choses à l'anglais, c'est ça l'objectif qu'on veut atteindre. Mais alors, vous comprendez bien, les Français disent ceci, qui se conçoit bien, s'exprime bien. Donc, c'est à partir de cette expression-là que vous pouvez comprendre que le dialogue n'a pas été conçu avec la sagesse et la technicité qu'il fallait. C'est une fabrication locale, c'est une invention. Je dirais même que c'est un exercice qui relève de l'équilibriste. Alors, vous comprenez que ça sera toujours difficile. Donc, on peut changer de texte, on peut crier. Le dialogue, c'est une création qui n'a pas de base solide. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Alors, à partir du moment où on ne sait pas définir les bases, donc même ceux qui veulent convoquer le dialogue, ceux qui sont pour le dialogue, personne ne sait plus comment faire. Donc, il faut convaincre tout le monde. Et c'est ça la difficulté. Et quand quelque chose se fait sans conviction, M. J.R., vous serez d'accord avec moi que c'est quelque chose qui est voué à un échec déjà dès le départ. Donc voilà ce que je peux dire. Donc c'est une histoire qui relève d'une acrobatie qui n'est pas vraiment scientifique.
Merci beaucoup, Olivier. Tout de suite, pour faire un beau réagissez un peu. Olivier, lui, estime que le problème, c'est la base. La base n'est pas solide. Cela veut dire que la base, dans la conception même, dans le problème qui sont posés, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même appréhension des vrais problèmes qui se posent aujourd'hui. Vous avez suivi Alain de la majorité, et lui estime que le problème sont sérieux, touche aux élections. Les autres disent, non mais écoutez, alors dans ces conditions, est-ce qu'on peut dire que le processus va risquer politique, qu'il soit politique, démocratique, comme on l'a déjà abordé, va être hypothéqué si on n'arrive pas à avoir même les mêmes bases de conception de cette question du dialogue, et ça va rendre aussi difficile même sa convocation. Il faut réagir un peu rapidement à ça.
Bon, moi je pense que dans notre pays, on a eu beaucoup d'expériences de rencontres entre Congolais, et ces expériences ont montré que chaque fois que les Congolais sont réunis, ils finissent par donner une dynamique à la réunion, et ça donne alors à ce moment-là un contenu. Je vois la conférence nationale souveraine, par exemple. La conférence nationale souveraine n'était pas convoquée par la communauté internationale. C'est quelque chose qui a été convoqué par les autorités locales, nationales, mais une fois que les gens étaient dans cette conférence nationale souveraine, ils ont donné à cette conférence un caractère, quelque part même soi-disant souverain. Donc la conférence s'est mise au-dessus de tout le monde et cette conférence a commencé à s'imposer. Ici, nous sommes avec un dialogue qui est convoqué sur la base aussi des actes posés au niveau international. Je vois là-bas.
Il y a l'accord cadre, il y a la résolution du Conseil de sécurité.
Conseil de sécurité, etc. Donc, on voit quand même qu'il y a l'idée de tenir compte de souhaits de la communauté internationale, des amis qui accompagnent les Congolais. Ces souhaits sont matérialisés par des exposés, là, des motifs. Avant l'ordonnance, on a fait allusion à cela pour justifier justement cette convocation. Mais si le chef de l'État met ces éléments-là dans son ordonnance, ça veut dire qu'il a tenu compte de ces éléments-là, dans la dimension internationale de l'affaire, et il a aussi écouté tout le monde. Parce que là aussi, il fait allusion au fait qu'il y a eu des consultations, il a écouté tout le monde, et je pense qu'il a eu des informations qui lui permettaient, à ce moment-là, de fixer ces 10 jours. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, fixer 10 jours si les informations qu'il avait tirées de ces consultations indiquaient que 10 jours n'étaient pas réalistes. Alors, si maintenant les 10 jours ne suffisent plus pour convoquer, disons, mettre en place le comité préparatoire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas prévu. Et c'est là que nous pouvons justement essayer de comprendre pourquoi, n'est-ce pas, le chef de l'État qui a écouté tout le monde, qui a tenu compte de recommandations de partenaires au niveau de la communauté internationale, convoque le dialogue, fixe même un timing, mais que ce timing ne peut pas être tenu. Alors là, ça voudrait dire qu'il y a probablement des éléments nouveaux qui sont arrivés, qui sont survenus après l'ordonnance. Oui. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être alors nouveau? À en croire, c'est celui qui parle au nom de la majorité, là-dessus qui intervient maintenant, il pense que c'est l'opposition qui a un problème. C'est l'opposition qui a un entendement où il faut absolument la facilitation internationale, etc. Or, moi je pense que ce dialogue convoqué par le chef de l'État, c'est un dialogue qui doit être financé par le Congo lui-même. Et donc, on ne va pas chaque fois, quand on a quelque chose, aller demander à gauche, à droite, les moyens pour que nous puissions nous réunir. Donc, moi, je vois ça, c'est un élément positif. Le fait qu'on le place, n'est-ce pas, sous la responsabilité du gouvernement congolais qui doit financer. Parce que l'aspect financement est un aspect important.
Oui.
Et la logistique aussi. Alors, maintenant, une fois que les gens seront là, je crois que ça sera autrement.
On va écouter rapidement, on le bousculer par les dernières minutes de l'émission. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes avec nous. En bref, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, Radio Okapi. Mon point de vue, je vais commencer par dire, je vais prendre le chef de l'État au mot. Le chef de l'État, il a dit... il va respecter l'État, il va respecter la Constitution vis-à-vis aux élections qui viennent. Il va respecter la Constitution. Donc, en 2016, le chef de l'État, il ne sera plus chef de l'État et il ne va pas revenir pour être candidat parce qu'il a déjà fait les deux mandats. Donc, si le chef de l'État doit respecter la Constitution, maintenant il a deux choix. Ou bien il n'organise pas les élections, il refuse d'installer, il refuse de faire, d'organiser le dialogue, comme les autres refusent le dialogue, à la fin, il va partir. Et puis il aura ce qu'il aura, parce qu'il n'y aura pas d'élection, mais les autres les autres qui refusent le dialogue, ils vont le poursuivre. Ou bien, ils vont avec ceux-là qui acceptent le dialogue pour parler, et après le dialogue, on saura ce qu'on va faire. Parce que, une année après, pendant une année, il n'y aura pas, il n'y a pas moyen de
les élections. Vous estimez, madame Joséphine, d'ailleurs, on le disait dans les émissions passées qu'en 2016, plusieurs personnes continuent à parler encore de 2016 en disant qu'en 2016, on aura élection, mais nous sommes effectivement en 2016. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a deux choses. Ou soit le chef de l'État va au dialogue avec ceux qui acceptent les dialogues et les autres, ils subissent, ou bien carrément, on organise les élections. Mais c'est pourquoi les gens estiment que toutes ces questions, ils devaient les discuter autour de ces dialogues. Merci beaucoup, Madame Joséphine. Maître Adrien, en 40 secondes, votre point de vue, vous êtes à Kananga, au Kasaï central.
Oui, merci, Pierrot. Je pense que je me rallie totalement au point de vue de mon ami Maurice de Kinshasa, parce que c'est ça aussi mon inquiétude. Ceux-là qui refusent le dialogue ne proposent pas un schéma. Deuxièmement, moi je demanderai au chef de l'État, parce qu'il n'y aura jamais unanimité autour de cette question. On peut vraiment apporter beaucoup de ça, il n'y aura rien. Lui, il peut convoquer des dialogues avec ceux-là qui sont d'accord pour les dialogues comme il l'avait fait avec les concertations. Parce que s'il attend que tout le monde se mette d'accord autour de ces dialogues, il n'y aura jamais cet accord-là. Voilà dans quelques secondes ce que j'avais dit.
Merci. Vous estimez qu'il fallait aller au dialogue avec ceux qui acceptent les dialogues. Maître Trésor Junior, vous êtes à Kinshasa aussi, en 40 secondes, votre point de vue.
Oui, c'est Maître Trésor Junior Mukendi à Kinshasa. Je salue d'abord le fait que vous avez accordé la parole bien qu'en dernière minute. Nous demandons au président Kabila, parce que c'est grand de notre surprise, de constater d'ailleurs avec un merci, il n'a pas honoré l'ordonnance qui est pour lui un acte juridique. Donc nous lui demandons de pouvoir s'asseoir avec des dialogues qui peuvent procéder directement au processus électoral. Les dialogues pour nous, c'est toute une façon de freiner les étapes électorales telles que prévues dans la Constitution, qui est la loi mère, la loi fondamentale.
Merci, Maître Trésor. Vous estimez que le fait que les délais fixés pour la mise en place du comité préparatoire est largement dépassé, il faut s'asseoir à l'ordonnance et alors là, passer directement au processus électoral. Merci aux uns aux autres. Vous avez été très nombreux à commenter ces sujets. On revient à vous, professeur Jean-Pierre Mbobo-Kalala, en une minute pour conclure cet échange.
Je crois qu'on ne doit pas laisser tomber l'idée du dialogue. Le chef de l'État a posé un acte. Cet acte doit être concrétisé. Et donc, il faut aller rapidement, n'est-ce pas, aux étapes qui ont été annoncées dans l'ordonnance. À mon avis, on ne peut pas faire comme s'il n'a pas posé un acte. Ça ne serait pas sérieux. Donc, par contre, il faut l'encourager à aller de l'avant, ne pas chercher, n'est-ce pas, midi à 14h, parce que chez nous, c'est difficile de se mettre d'accord sur le nom. Mais il doit lui-même, il a une base assez large d'informations, prendre les gens qu'il faut, mettre en place ces comités, que ces comités aillent de l'avant.
On peut pas bien même tout le monde n'est pas d'accord, comme Adrien l'a dit, bon, allez-y seulement que les résultats ne soient pas acceptés par les uns et les autres.
Non,
c'est ça aussi notre paire de manches.
Oui, le problème, c'est qu'il a entendu tout le monde. Il dit ça dans l'exposé motif. Il a entendu les différentes couches sociales. Et si lui, il a fixé ça, je crois quand même que c'est sur la base des informations qu'il avait. Maintenant, il y a des points de vue qui sont divergents. Il faut essayer de travailler pour aller de l'avant, le mettre d'accord, s'entendre sur le minimum et faire quelque chose de bien pour le pays. On ne doit pas perdre le temps tout le temps. Il faut évoluer, croire dans ce dialogue, travailler avec ceux qui sont favorables. À mon avis, la majorité congolaise est favorable à ce dialogue.
Merci, professeur Jean-Pierre Mbobo-Kalala. Merci à Gilles Mungembo qui a réalisé et coordonné cette émission mise en onde par Mimi Kindou. Pierrot et la Minji vous la présenter sous la supervision de Pélé équipé La Mondo. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Mais cette émission est aussi sur www.radiocapi.net. Merci aux internautes. Hein. Vous êtes aujourd'hui à 400 000 sur la page Facebook de Radio Okapi. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Au revoir.